Bonjour et bienvenue à Espérance aujourd'hui. Je m'appelle Ian.
Et je m'appelle Hélène. Nous sommes heureux de vous retrouver.
Aujourd'hui, lors de notre émission de réflexion biblique, nous allons tirer des leçons à partir de la vie d'un personnage nommé Joseph, l'arrière-petit-fils d'Abraham.
Ceci en compagnie d'Alain, qui exerce un ministère pastoral dans le sud de la France.
Je ne sais pas si vous avez déjà observé un potier travailler. Sa dextérité étonne quand on le voit créer à partir d'argile un beau vase ou un magnifique plat. Le travail de ses doigts peut parfois donner l'impression qu'il va abîmer son œuvre. Cependant, si nous continuons à l'observer jusqu'à la fin de son œuvre, nous découvrirons un bel objet. Cet exemple peut servir comme une image de la manière dont Dieu façonne ses enfants. Un jour, Dieu a envoyé le prophète Jérémie chez un potier. Ensuite, l'Éternel lui a déclaré « Au peuple d'Israël, ne puis-je pas agir à votre égard comme a fait ce potier? Vous êtes entre mes mains, comme l'argile entre les mains du potier. » Ceci est vrai pour tout chrétien. Dieu peut nous placer dans des situations difficiles afin de nous former et nous façonner selon sa volonté. C'est ce que nous allons découvrir à travers l'étude sur la vie de Joseph. La dernière fois, nous avons appris que Joseph a été vendu par ses frères à des marchands en route pour l'Égypte, qui, à leur tour, l'ont vendu comme esclave. Reprenons l'histoire au moment où Joseph entre au service de Potiphar. Comment Joseph a-t-il réagi à cette nouvelle situation? Car le voici esclave.
Dans le livre de la Genèse au chapitre 39, nous découvrons effectivement que Joseph est maintenant esclave dans la maison de Potiphar. Et nous apprenons un fait remarquable. Malgré tout ce qu'il vient de subir, il ne se révolte pas contre Dieu. Il vient de passer par une expérience traumatisante. Il a essuyé la haine de ses frères, a été vendu comme esclave. Sa vie a brutalement changé et pour le pire. Mais malgré tout cela, Joseph ne se plaint pas contre Dieu et il n'abandonne pas non plus le Dieu de ses pères.
Cette attitude est tout à fait remarquable.
Oui, en effet, et c'est la preuve qu'il est conscient que sa vie est entre les mains du Seigneur, même s'il ne comprend pas exactement pourquoi une telle épreuve s'abat sur lui.
Et c'est cette même question qui a troublé les enfants de Dieu à travers les siècles. Pourquoi le juste, qu'en est-il la souffrance ?
Cette question reviendra souvent au cours de notre étude sur la vie de Joseph. Et il faut dire qu'il vit une période durant laquelle Dieu le met à l'épreuve. Dieu utilise cette épreuve pour développer son caractère. Et il n'en sortira pas jusqu'à ce que Dieu termine son œuvre en lui.
Mais pourquoi est-ce nécessaire dans la vie de Joseph?
Dieu avait le projet d'accorder à Joseph une position élevée. Or, nous pouvons constater que tout au long de l'histoire, beaucoup d'hommes ont occupé des places élevées avant d'être prêts. Ils en sont devenus arrogants et orgueilleux. Nous courons tous ce même danger. C'est pourquoi Dieu commençait par ses épreuves à préparer Joseph, afin qu'il soit un bon serviteur de l'Éternel dans les jours à venir. Et ceci est un encouragement pour nous aujourd'hui si nous passons aussi par des épreuves. Dieu commençait à travailler dans le cœur de Joseph afin qu'il devienne un homme qu'il pouvait utiliser. Voilà ce qui arriva à Joseph. Et voilà ce qui arrive aux enfants de Dieu aujourd'hui encore. Ce récit se trouve dans la Bible pour notre instruction et notre encouragement. Pourriez-vous lire dans la lettre aux Romains le chapitre 15 et le verset 4, s'il vous plaît?
Oui, bien sûr. Oh, tout ce qui a été consigné autrefois dans l'Écriture l'a été pour nous instruire, afin que la patience et l'encouragement qu'apporte l'Écriture produisent en nous l'espérance. Reprenons maintenant l'histoire de Joseph. Nous savons donc qu'il était vendu comme esclave à un homme nommé Potiphar. Qui était-il?
Potiphar occupait une position sociale élevée en Égypte. Il se trouvait au sein même du gouvernement, car il était responsable de la garde personnelle du pharaon. Considérons un instant l'effet que de tels changements ont pu avoir sur Joseph. Tout d'abord, le choc culturel a dû être énorme, et puis il a dû faire l'apprentissage d'une autre langue, découvrir d'autres mœurs, Et finalement, il a été confronté à une nouvelle religion s'opposant à celle qu'il vivait dans son cœur, c'est-à-dire l'idolâtrie et l'adoration à l'empereur.
La situation de Joseph n'est pas du tout enviable.
C'est vrai, mais ce n'est pas par hasard que Joseph a été acheté par Potiphar. Ce qui lui arrive est le moyen par lequel Dieu va réaliser son plan souverain. Bien sûr, Potiphar, qui ne croyait pas au vrai Dieu, n'en était pas conscient. La providence de Dieu est vraiment incroyable. Puisqu'il est tout-puissant, il peut transformer le mal en bien et accomplir ainsi ses desseins pour la bénédiction de son peuple.
Oui, les voies du Seigneur sont merveilleuses. Mais alors, que devient Joseph maintenant chez Potiphar ?
Potiphar est un homme riche. Il possède une belle maison, de nombreux serviteurs, des propriétés immobilières, de l'argent et des champs. Joseph vit dans sa maison. Et nous lisons dans Genèse 39, verset 2, une phrase clé. L'Éternel fut avec Joseph.
Et pourquoi soulignez-vous cela ?
Parce que ni la haine de ses frères, ni le fait d'être vendu comme esclave, ni celui de se trouver dans un pays étranger, ni d'être exposé à une religion idolâtre ne l'éloigne de Dieu. N'est-ce pas rassurant pour nous ? Les circonstances de Joseph ont changé, mais sa relation avec Dieu demeure inébranlable.
Quel réconfort !
Oui, et dans le Nouveau Testament, l'apôtre Paul nous parle du privilège de tout croyant. Rien ne pourra le séparer de l'amour de Dieu, même les pires circonstances. Dans sa lettre aux Romains, au chapitre 8, Paul pose la question « Qu'est-ce qui pourra nous arracher à l'amour du Christ ? La détresse ou l'angoisse, la persécution, la faim, la misère, le danger ou l'épée ?» Cette liste est assez complète et montre les dangers auxquels nous pourrions être exposés, dangers que nous pourrions redouter et préférer ne pas affronter. Dans les versets suivants, Paul poursuit avec un raisonnement rassurant. Il affirme que même si nous devons faire face à ces choses, aucune d'entre elles ne pourra nous séparer de Dieu. Voulez-vous lire dans Romains 8, les versets 37 à 39, s'il vous plaît ?
Oui, bien sûr, Paul écrit. Mais dans tout cela, nous sommes bien plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Oui, j'en ai l'absolue certitude, ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni les dominations, ni le présent, ni l'avenir, ni les puissances, ni ce qui est en haut, ni ce qui est en bas, ni aucune autre créature. Rien ne pourra nous arracher à l'amour que Dieu nous a témoigné en Jésus-Christ, notre Seigneur.
Quel verset merveilleux ! Le croyant ne pourra jamais être séparé de l'amour de Dieu. Et c'est exactement ce que Joseph vit.
Oui, il s'agit là d'une promesse formidable.
Tout à fait. Il faut aussi mentionner la fidélité de Joseph envers Dieu pendant tout ce temps. Comme je l'ai déjà dit, rien dans ce passage ne suggère que Joseph en veut à Dieu ou qu'il devient amer ou qu'il désire abandonner Dieu. Bien des gens se sont éloignés du Seigneur après avoir traversé des expériences difficiles. Mais ce n'est pas le cas de Joseph. C'est un fait que nous rencontrerons constamment dans sa vie, même quand il fut confronté à d'autres difficultés.
Merci Alain, et quel encouragement de savoir que, quelles que soient les épreuves que nous traversons, si nous sommes enfants de Dieu, il ne nous abandonnera jamais.
Merci pour ces rappels importants. Nous ne devons jamais oublier que Dieu est fidèle, son amour est constant. Et ces vérités demeurent, quelles que soient les circonstances que nous traversons.
Et parce que Dieu est fidèle, nous devons et nous pouvons lui être fidèles, convaincus que toute chose concourt pour le bien de celui qui l'aime.
À présent, Jean-Marc va poursuivre ses méditations bibliques sur les paroles de Jésus, appelées les Béatitudes. Il commence avec la lecture de l'Évangile de Matthieu, chapitre 5, verset 8.
Heureux ceux dont le cœur est pur, car ils verront Dieu. Les visions sur Dieu sont plutôt rares dans la Bible, car Dieu a accordé le privilège de voir sa personne à très peu de gens. Nous pouvons penser au prophète Ésaïe, qui, lorsqu'il est entré dans le temple un jour, a vu l'Éternel dans toute sa majesté et sa sainteté. Devant cette vision, il s'est écrié « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures ». Le prophète Ézéchiel, quant à lui, alors qu'il était assis dans un lieu désert, a aussi vu la gloire de l'Éternel. Face à cette manifestation du Seigneur, il est tombé à terre. De même, L'apôtre Jean, lors de son exil sur l'île de Patmos, a vu Jésus-Christ ressuscité et dans sa gloire. Jean est alors tombé à ses pieds comme mort. Nous pouvons en conclure que voir Dieu est une chose terrible. Toutefois, dans les trois cas cités, Dieu rassura ses serviteurs et il les releva. Aujourd'hui, en dehors de quelques exceptions, nos yeux ne verront pas Dieu. Toutefois, le jour viendra où tous nous le verrons. Car selon la Bible, tous nous ressusciterons d'entre les morts et nous nous trouverons dans la présence de Dieu. Les yeux de tous le verront et sa majesté et sa gloire seront manifestes. Nous comprendrons désormais, comme jamais auparavant, les perfections de la justice et de la sainteté de notre Seigneur. Et à la lumière de cette révélation redoutable, nous nous sentirons petits, faibles, et surtout nous comprendrons toute la gravité de notre impureté et notre péché. Tout comme Ésaïe, le prophète Ézéchiel, ou Jean avant nous, devant l'Éternel, nous tomberons le visage à terre. Une question se pose alors, Dieu nous relèvera-t-il? Nous rassurera-t-il? Tout comme il l'a fait pour ces trois hommes cités tout à l'heure. Selon la Bible, ce jour-là sera un jour de jugement. Dieu nous relèvera si au cours de notre vie nous avons accepté que le Seigneur nous rende purs. Alors seulement nous verrons Dieu et nous demeurerons auprès de lui l'éternité entière. Si par contre nous avons refusé que Jésus nous purifie de tous nos péchés, Dieu nous rejettera. Dans ce cas, nous ne verrons plus jamais Dieu et passerons l'éternité sans lui. Ce sera une chose effroyable. Seuls les purs demeureront heureux, car seuls les purs verront Dieu et passeront l'éternité avec lui. Et comme nous l'avons déjà appris, seul Jésus a le pouvoir de nous rendre purs.
Trouver pur devant Dieu est vraiment de première importance. Car comme le rappelle Jean-Marc, notre destin éternel en dépend. Tous, nous devons nous examiner devant l'Éternel et rechercher la pureté, non à travers des rites ou des rituels, mais auprès du Seigneur Jésus.
Nous vous donnons rendez-vous lors de notre prochaine émission d'Espérance aujourd'hui. Comment Joseph s'en sortira-t-il en Égypte? Pour le découvrir, nous vous invitons à nous écouter encore.
En attendant, nous vous disons au revoir et à bientôt.
Au revoir et que Dieu vous bénisse.